Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, chapitre 13, procès au forum. Keller, en retrouvant la mémoire, avait perdu le calme. Les 3 années qu'il avait passées dans l'oubli d'une forêt peuplée d'enfants lui paraissaient un rêve paisible dans le torrent de son existence. Toute sa force, toute son énergie s'y était ramassée et dévalait à présent plus rapide et plus impétueuse le cours de sa vie. Ses sentiments assoupis s'étaient réveillés dans toute leur violence et, pêle-mêle, comme des eaux se rejoignant à leur confluent, charriant de multiples débris de toutes origines, des émotions puissantes se mêlaient, tourbillonnantes, rafraîchissantes et imprévisibles. L'amour, en premier lieu, circulait dans ses veines avec une vigueur nouvelle. Jamais son désir pour Eleanor ne fut si fort. Il lui semblait qu'en la perdant et en la retrouvant, il avait mesuré toute l'étendue des merveilleux pouvoirs qu'elle exerçait sur lui. Il supportait plus mal qu'avant son éloignement, même temporaire, et la regardait souvent vaquer à ses occupations, sans réellement écouter ce qu'elle lui disait, en songeant seulement aux dons, qui lui paraissaient immenses, qu'elle lui faisait d'elle-même. Elle était si libre, si indépendante. Elle avait si bien réussi à vivre sans lui, et elle était là, pour lui, sans nulle nécessité, avec un amour si désintéressé qu'il pensait parfois ne pas le mériter. Cet amour débordait la simple personne d'Eleanor, et par contagion, englobait Artus, leur maison, Albâtre tout entière. Keller, qui avait vécu toute sa jeunesse avec le sentiment d'être spolié, vivait maintenant avec le sentiment inverse, celui d'être démesurément gâté par le destin, et d'occuper une place dont il n'aurait jamais osé rêver. Ce bonheur nouveau battait à ses tempes et lui donnait des vertiges. Il lui donnait envie de crier et de courir. La reprise du Setan, que Aumont avait accepté de lui enseigner, fut un canal bienfaisant pour le dégorgement de cette énergie. Keller s'y montra assidu et discipliné et apprit à transformer toutes ses ressources psychiques et émotionnelles en élan physique, d'une précision et d'une puissance grandissantes. Il allait aussi à l'école de l'esprit, avec un peu moins d'ardeur, et, le reste du temps, se promenait infatigablement dans Albâtre, le plus souvent avec Artus. Ils étaient 2 enfants devant les merveilles de la ville, 2 âmes vierges de beauté, que des éblouissements violents rendaient souvent silencieuses et graves. À la maison, il n'était question que d'embellissement, de plantation, de nettoyage. Keller fabriquait des perchoirs pour Grollo, faisait pousser les plus rares fleurs d'albâtre dans son patio, réparait les mosaïques cassées. Son activité bruyante faisait souvent sourire à Eleanor, qui se prêtait à ses projets de temps en temps, sans négliger ses éternelles préoccupations. Ils étaient heureux. Mais au cœur même de ce bonheur, 2 autres sentiments se lovaient, presque invisibles. D'abord l'angoisse de tout perdre, et puis, plus profondément et obscurément, la culpabilité de laisser l'un des leurs dans le noir. Keller avait de brusques emportements, où il étudiait les cartes des galeries jusqu'à se rougir les yeux, ou organisait des battues dans la forêt. La seconde expédition pour explorer le labyrinthe souterrain demandait une organisation plus lourde que la première, des vêtements plus chauds, de la nourriture en suffisance, car Keller prévoyait de passer 1 nuit, et peut-être plusieurs, dans le souterrain. Il écoutait à Eleanor qui le suppliait de prévoir des armes, des combattants exercés à l'esprit. C'était en fait une expédition guerrière qu'il devait organiser. Rassembler et motiver ses hommes, les prévenir des dangers, car aucun renfort matériel ni humain ne saurait leur parvenir au fond de ces abîmes. À Eleanor voulait que tous les participants fussent entraînés à la transe collective. Tout cela prenait du temps, et l'impatience dans le torrent des sentiments de Keller devenait parfois le plus impérieux. Enfin, parmi l'amour, l'émerveillement, la frénésie d'action, l'angoisse et l'impatience, il se trouvait un dernier sentiment qui le retenait éveillé, remâchant des souvenirs ou imaginant des lendemains terribles, dans les nuits laiteuses d'Albâtre, et il s'agissait de la soif de justice, ou peut-être de vengeance, à l'égard de Ruben. Personne, pas même à Eleanor, n'avait su à quel point Keller se sentait inconsolable de la mort de Ketel. Car personne n'avait compris le sentiment profond, sans tache, qui le reliait au vieillard. Ce n'était pas une simple amitié, c'était plus encore qu'un lien filial. Ketel avait été le sage, le saint, qui lui avait tendu la main alors qu'il n'était rien. La reconnaissance qu'il éprouvait à son égard n'avait pas plus de limite que la haine qu'il éprouvait envers son assassin. Et Ruben, cet autre vieillard, qui paraissait une grotesque contrefaçon de son ami, lui semblait cristalliser tout le mal de son existence. Il avait apposé sa marque sanglante sur la joue d'Eleanor, il avait fait tuer Kettel, il avait pactisé sournoisement avec un meurtrier, il s'était immiscé dans l'esprit de son propre petit garçon. Cette dernière pensée était peut-être celle qui le faisait le plus frémir. À Eleanor et lui passaient de longues heures à élaborer les grandes lignes de leur accusation, avec Aumont qui les rejoignait parfois. Ils ne doutaient pas un instant que la cité entière se rangerait de leur côté et que l'ennemi serait banni. Ce procès faisait évidemment grand bruit. C'était le premier crime qu'on jugeait dans la nouvelle Albâtre, et l'on avait décidé peu de semaines auparavant la réouverture du forum pour qu'il fût jugé le plus solennellement possible. Selon les anciennes coutumes d'Albâtre, les débats publics se feraient entre deux groupes constitués chacun d'un nombre égal de personnes. Les procureurs s'étaient désignés au nombre de trois, à Eleanor, Keller et Aumont. Ruben aurait donc le loisir de faire appel à deux orateurs supplémentaires, dont il pouvait taire l'identité jusqu'au jour du procès. Procureurs et défenseurs devraient recourir à des témoignages publics, participer à un débat contradictoire, puis à une argumentation séparée, à l'issue de laquelle tout le public serait amené à s'exprimer, soit par la voix des sifflets, soit par la voix des votes, en cas de litige. Les membres du public s'étaient inscrits à l'avance, afin que l'on pût surveiller l'équité de sa constitution. Les badauds se présentant au dernier moment auraient le droit d'assister au débat, mais pas de donner leur voix. Hommes, femmes, natifs de Haute et de Basse Ville, parents et amis notoires des procureurs et des défenseurs, se devaient d'être correctement équilibrés. On veilla à tous ces détails, avec la plus scrupuleuse exactitude. Enfin, le jour suprême arriva. À Eleanor s'était vêtue avec son habituelle et élégante simplicité, d'un vêtement de soie blanche, flottant et délicat. Elle avait les cheveux mi-tressés, selon la mode qu'elle avait lancée, et portait des bijoux d'argent qui accrochaient la lumière, comme les moirures de la soie, lorsqu'elle faisait un mouvement. Ces préparatifs, dont elle mesurait l'importance lors d'un procès public, lui rappelait ceux de son apostasie, 5 ans auparavant. Une autre cérémonie qui l'opposait déjà au même homme. Elle laissa ses doigts toucher sa cicatrice, tout en se regardant dans le miroir, et se demanda quel visage elle aurait eu sans ce « A » qui lui barrait la joue. Elle aurait été belle, sans doute, mais elle n'y pensait presque jamais. Keller, ses cheveux blancs détachés tombant sur ses épaules, avait opté également pour une tenue très simple, en vogue dans la nouvelle Albâtre, constitué d'une toge en laine brute qui accentuait la modestie de son origine et de son maintien. Seul Aumont, vêtu pour la circonstance d'une toge bleue richement brodée et garnie de passementeries damassées, paraissait auréolé d'une dignité sacramentelle. Le petit Artus, tenant la main d'Irene, les suivait. Lorsqu'ils arrivèrent au forum, celui-ci était déjà en train de s'emplir et des murmures s'élevèrent à leur arrivée, pour la plupart approbateurs. Jemira, en grande tenue officielle, présidait au centre de l'estrade. 6 sièges identiques avaient été disposés, 3 à sa gauche et 3 à sa droite, et elle invita les procureurs à prendre place, tandis que les défenseurs se faisaient attendre. L'attente, évidemment, était calculée. L'entrée en scène avait été méticuleusement minutée, afin que la surprise pût être à son comble, devant un parterre déjà installé et très légèrement impatienté. Sadric entra le premier, vêtu de pied en cap à la mode de la basse ville, ne cédant à la coutume de sa caste que par la qualité irréprochable des étoffes utilisées. Puis vint l'ancien chancelier Ruben, très digne, avec ses tresses traditionnelles en mêlant des fils d'argent et des perles à ses cheveux blancs, vêtu de la tenue officielle de son ancienne charge. Enfin, avec un très léger différé, arriva Daphnae, d'une beauté provocante et sulfureuse, vêtue d'une robe rouge incrustée d'écailles de reptiles, dont les manches en fines cottes de mailles s'évasaient aux poignets. Elle était maquillée outrageusement et recueillait pour le moment tous les regards, plongeant ses yeux dans les yeux innombrables du public, comme si elle attendait l'offrande d'un bouquet de roses. Jemira attendit que les défenseurs fussent installés et que le silence retombât dans le forum, ce qui mit plus de temps que prévu, car les natifs de la basse ville, peu habitués aux conventions des cérémonies officielles, en perturbaient le cours par des murmures presque incessants. « Ancien chancelier Ruben, levez-vous. » Le vieil homme, avec une difficulté manifeste, car Eleanor savait être feinte, se dressa sur ses pieds et attendit respectueusement. « Vous êtes accusé par les procureurs ici présents d'un crime grave. Procureur ?»« Nous vous accusons, » dit Aumont, « d'avoir commandité les meurtres de 9 apostats et de 3 membres de la branche active de Hauteville, dans les jours ayant précédé la Révolution. » Nous vous tenons pour responsable moralement de la mort de ces 12 personnes. Nous vous accusons aussi d'avoir conclu un pacte avec le maître des ombres, Sornard, afin qu'il exécute ces 12 personnes. » Un silence tendu régnait dans l'assemblée. Jemira reprit la parole. « Défenseur, je reconnais avoir demandé à maître Sornard de neutraliser ces 12 personnes afin d'empêcher la révolution. » Un murmure s'éleva, accompagné de quelques sifflets aigus. Mais je n'ai jamais commandé leur mort, et Sornard seul emporte la responsabilité aujourd'hui. Qu'allez-vous tenter de démontrer, procureur ? Eleanor se leva, faisant signe à Aumont de la laisser faire. Nous allons montrer que Ruben a agi contre toutes les lois de la haute ville, et qu'il eût été passible à l'époque d'une accusation de haute trahison. Nous allons montrer aussi que les liens noués avec le maître des ombres ont permis à ce dernier de commettre d'autres crimes, et que Ruben, par l'aide qu'il lui a apportée, est en partie responsable, en plus des 12 meurtres déjà cités, du massacre des spiritualistes comme de l'enlèvement de mon propre premier-né. » Une rumeur intense se déclencha à ces paroles. L'information, bien sûr, avait commencé à filtrer, mais beaucoup de citoyens n'y croyaient pas. « Défenseur, qu'allez-vous tenter de démontrer ?»« Une chose très simple, » dit Daphnae avec emphase. Une chose si simple en vérité, que nous n'aurons pas besoin d'être très convaincants pour que tout le monde en convienne. C'était la guerre. Elle avait prononcé cette phrase avec tant de subtilité que tout le public se sentit instinctivement d'accord avec elle. Mais nous ne nous arrêterons pas là, reprit Sadric. Nous montrerons également que les accusateurs eux-mêmes étaient très liés avec la Guilde de l'Ombre et qu'il serait légitime de se demander pourquoi ils ont gardé le silence aussi longtemps sur ce fameux enlèvement que nous découvrons aujourd'hui. « Nous montrerons enfin, » dit Ruben avec douceur, « que l'intérêt suprême de la nouvelle Albâtre réside non dans le règlement des comptes de guerre, mais dans la réconciliation des anciens ennemis. » « Nous allons procéder à l'audition des témoins, » prononça Jemira. S'ensuivit un interminable balai de témoignages. D'abord, un membre éminent de l'ancienne guilde du pouvoir rappela qu'aucun aval n'avait été donné à Ruben, qu'il n'avait aucune légitimité à se servir des compétences du maître de l'ombre, et qu'au regard de l'ancien livre des lois, Ruben, aussi bien que Sornard, devait répondre de félonie. Les autres témoins de l'accusation décrivirent longuement le décès des apostats, ainsi que la vague de panique que ces disparitions avaient générée dans l'armée du soulèvement. Keller intervint pour parler de Kettel. Aumont témoigna également du meurtre d'Emeric dont il avait été le témoin impuissant. Le jeune Cardone témoigna avec force sanglots du courage de sa maîtresse devant les douleurs de l'accouchement, ainsi que de la violence de Joris. Les soldats qui avaient retrouvé Eleanor mourante avec Artus parlèrent également. Eleanor elle-même raconta d'une voix tremblante la naissance de ses deux fils. Irène, enfin, raconta, avec plus de détails encore qu'elle n'avait coutume de le faire, l'agonie de son peuple. Le public, respectueux des grandes douleurs évoquées, ne soufflait mot. Le maître des ombres faisait peur, beaucoup plus peur à la vérité que l'humble vieillard aux cheveux argentés qui écoutait les témoins avec un œil compatissant. Vinrent ensuite les témoignages de la défense. Zoroastre vint raconter la façon dont il avait été piégé par son propre bâtard et rapporta les mots de menace de Keller. Il se fit tuer par la foule, mais on regarda Keller étrangement. Des soldats vinrent ensuite naïvement conter les exploits de Keller lors de la nuit de la Révolution, dont il ressortait que Keller avait tué beaucoup plus d'une douzaine de hauts citoyens. Les parents d'Aélénor vinrent témoigner de la grande rigueur morale de Joris et de son incapacité à faire une chose aussi vile que l'enlèvement de son neveu. Ils témoignèrent également de l'insolence et du mauvais caractère de leur fille. L'ancien chancelier vint lui-même témoigner de la requête d'Aélénor concernant l'éducation d'Artus, dont il ressortit qu'Aélénor avait fait un usage illicite de l'esprit et que sa haine à son encontre était un coup de tête récent qui contrastait douloureusement avec la confiance dont elle l'avait honorée avant le retour de Keller. Il prétendit également que, le jour où Joris s'était présenté pour entrer à la Guilde de l'Ombre, celui-ci aurait longuement parlé de ses relations fraternelles avec Aelenor et de son désir de renouer des liens avec elle. Enfin, on amena un étranger, un matelot des cités portuaires, que tout le monde reconnut pour tel à son uniforme bigarré. Il vint témoigner, dans l'incrédulité et la suspicion générale, des rumeurs qui circulaient entre les matelots, d'une guerre prochaine entre les cités portuaires et la cité d'Albâtre. « Comme vous êtes désorganisés, se disent nos dirigeants, la ville ne sera plus défendue. » Djemira, qui reçut la nouvelle avec une vive émotion comme tout le monde, se reprit néanmoins suffisamment pour demander « Défenseur, quel est le rapport entre le but de votre démonstration et ce témoignage ?»« Permettez, dit Sadric tranquillement, le dernier point que nous souhaitions démontrer était que l'intérêt suprême d'Albâtre résidait dans un rassemblement pragmatique et non dans le règlement des comptes de guerre. » À ces mots, une approbation générale fusa du public. « Y a-t-il d'autres témoignages ?» demanda Djemira. « Non. » « Alors nous pouvons procéder au débat public après une courte pause. » À Aelenor, Keller et Aumont se penchèrent les uns vers les autres et échangèrent quelques mots consternés. Les débatteurs doivent se lever et se rasseoir lorsque leur prise de parole est terminée. Keller commença dès lors à percevoir la scène comme à travers un voile, ou comme si ses sensations lui arrivaient avec un léger décalage temporel. Il percevait l'agitation de la salle, les sentiments versatiles et grondants du public, et sa propre défaveur, avec acuité. Il entendait le procès se dérouler comme à distance, incapable d'y participer, parce que quelque chose était brutalement survenu en lui. Vous inventez une fable pour détourner le public du véritable objet du procès. Votre félonie, vos 12 meurtres, une telle démagogie est indigne de vous, disait une voix à ses côtés. Il n'y aurait pas de justice. Le vieux renard s'en tirerait comme s'en était tiré son père, comme s'en tireraient toujours ceux qui maîtrisaient les arcanes du pouvoir. Démagogie, répondait une autre voix. Vous croyez donc que les citoyens de la Nouvelle Albâtre sont si facilement manipulables? Vous les avez en piètre estime, et je suis confiant, moi, en leur capacité à démêler l'essentiel de l'accessoire. Keller prenait conscience de son erreur, avec une clarté confondante. Il n'aurait jamais dû venir ici, il n'aurait jamais dû se mêler de ce procès. Ses rassemblements publics, ses joutes verbales, lui étaient profondément étrangers. « Accessoires ! Vous appelez accessoires les meurtres de 12 personnes !»« On ne parle pas de meurtre lorsque c'est la guerre !» Keller regarda à Aelenor. Elle était de profil par rapport à lui. Elle se levait et se rasseyait tour à tour selon le hasard des prises de parole. Elle ne lui prêtait aucune attention, ses yeux jetant des flammes, les joues ardentes. Elle était belle, mais moins belle que lorsqu'elle souriait, après l'amour, dans le calme de leur maison. « La guerre n'excuse pas tout. Quelle justification politique donnerez-vous à l'enlèvement d'un enfant ?»« Nous ne sommes pas responsables de l'enlèvement de cet enfant. Personne dans Albâtre ne connaissait cet élément jusqu'à très récemment. » Keller, hagard, chercha le regard d'Artus. Celui-ci le regardait depuis le premier rang du public et semblait lire dans ses pensées et lui distiller l'amour et le courage. Artus l'admirait et lui faisait confiance. Il était son père. Keller se leva soudain et brusquement prit la parole. « On me met dos à dos avec l'accusé, et je réponds de mes actes, » clama-t-il. « J'ai tué de nombreux gardes pourpres la nuit de la Révolution. Mais j'ai risqué ma vie pour chaque coup de glaive que j'ai donné. J'ai risqué la vie de ma femme et de mon fils. J'ai perdu l'esprit pendant 3 ans suite à cette nuit. Est-il vraiment légitime de comparer mes actes avec ceux d'un lâche qui a fait assassiner des vieillards dans leur sommeil, par derrière, par un intermédiaire ? Qu'avez-vous risqué, Ruben ? Vous êtes-vous exposé aux glaives furieux de vos adversaires ? Avez-vous seulement sali vos belles mains d'intellectuel ? Dites-moi, avez-vous bien dormi tandis que Maître Sornard, grâce à votre aide, massacrait des femmes enceintes et des sages pacifistes à la cité-monastère ? » Un murmure respectueux suivit cette harangue. Keller se rassit et sentit la main d'Aelenor serrer furtivement la sienne. Bientôt, le débat contradictoire cessa. Nous allons procéder à l'argumentation séparée. Un seul orateur, pas d'interruption. La parole est au procureur. Aumont, qui avait été désigné pour ce rôle, se leva et commença son discours. La tension retombait un peu en Aelenor, car ce qui restait à faire maintenant était seulement de la représentation. Le discours avait été préparé et écrit à l'avance. Il ne s'agit pas aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'une quelconque vengeance personnelle, mais bel et bien d'un acte de justice que nous vous demandons de rendre, en mémoire de personnes assassinées lâchement, de sang-froid. À Eleanor écoutait Aumont avec un intérêt passionné, mais le discours ne produisait pas dans sa bouche l'effet qu'elle attendait. Les mots sonnaient creux. Aumont semblait résigné à un exercice scolaire. Le feu sacré l'avait quitté. Il ne croyait plus en la victoire. Qu'une personne seule décide de la mort d'un seul de ses concitoyens, et c'est tout l'état de droit qui s'effondre. Elle n'avait pas voulu prononcer le discours elle-même, pour ne pas abuser de la sympathie qu'elle inspirait au public, par déontologie en quelque sorte. Elle se trouvait trop concernée, trop partiale, mais elle réalisait maintenant son erreur. Sans orgueil, elle savait qu'elle aurait prononcé ce discours avec beaucoup plus de cœur qu'Aumont, qui déroula le texte sans soulever son public. Ce dernier réquisitoire aurait peut-être pu sauver la partie, mais il avait été manqué. Aumont se rassit, sérieux et grave. Et Daphnae, lentement, avec tout l'art de l'actrice, se leva, s'éclaircit la voix et commença son discours. Chers amis, et je vous appelle amis, car l'amitié est au centre de mes préoccupations aujourd'hui, j'en appelle à vous. Les faits qui sont reprochés à ce digne vieil homme, dont tout le monde peut voir aujourd'hui la retenue, sont graves, et croyez qu'il est le premier à souffrir tout au long des jours des décès dont il a été involontairement responsable. Son crime, c'est d'abord d'avoir cru en la haute ville, d'y avoir cru de toutes ses forces. Mais sondez vos âmes, qui d'entre vous souhaitait véritablement la révolution avant qu'elle n'advienne? C'est ensuite d'avoir fait confiance au maître des ombres, dont la suite des événements a démontré le caractère terrifiant et sanguinaire. Mais qui, je vous le demande, qui aurait pu deviner, derrière cette carrière impeccable au service de la cité, derrière cette éducation parfaite, le monstre qui se cachait? Sornard était un interlocuteur quotidien de la guilde du pouvoir, un homme accrédité de la confiance générale, comme tous les maîtres des guildes. Oui, Ruben a manqué de discernement, en s'ouvrant à lui de ses inquiétudes, en lui demandant d'intervenir pour sauver la haute ville. Mais comment aurait-il pu prévoir les expédients macabres dont il userait? Comment, surtout, le rendre responsable de tout ce que ce personnage inquiétant a fait après? Daphnae semblait rayonner. Sa robe accrochait les rayons du soleil par toutes ses mailles et ses écailles, et elle paraissait investie de lumière. Elle parlait haut et fort, avec lenteur et sérénité, et retenait captive l'attention de tous. Nul ne cherche à nier les morts, nul ne cherche à nier leur terrible gravité. Mais la nouvelle albâtre est construite sur les ruines de l'ancienne et scellée avec notre sang. Tous ceux qui sont morts lors de la Révolution ne sont-ils pas réunis aujourd'hui dans notre mémoire? Faut-il continuer à les opposer pour l'éternité, ou pouvons-nous enfin aujourd'hui mettre leurs âmes en paix en accordant à Albâtre la réconciliation? Nous tous, citoyens d'Albâtre, aspirons à l'unité et au partage. L'avenir est plein de promesses, mais aussi plein de dangers. Affaiblir notre cité par une division interne n'est pas seulement stérile, mais dangereux. Nous devons faire face à de multiples problèmes dans et hors nos frontières, avec un front serein. Ainsi, je vous demande, chers amis, de rendre aujourd'hui le verdict de la paix, celui qui scellera une fois pour toutes la réconciliation d'Albâtre avec elle-même et qui nous permettra d'avancer, unis, dans le rassemblement pragmatique. Quelques heures plus tard, Ruben fut acquitté dans un tonnerre de sifflets graves qui accompagnèrent sa retraite triomphale.